Ce matin, je vous emmène en grande partie dans l'Ancien Testament et faire le parallèle au sujet du passage dans Ruth et le passage dans Matthieu pour voir l'ascendance où venait le Messie. Ce message ce matin, j'ai intitulé Ruth, entre parenthèses la Moabite, et le Messie. Et à ce sujet, j'aimerais tout simplement voir trois points ce matin pour fixer les pensées. D'abord, revenons sur l'histoire personnelle de Ruth, une histoire palpitante, pleine de rebondissements et qui est riche en enseignements. Après, l'histoire du plan rédempteur à travers cette histoire de Ruth. Et je terminerai en revenant sur la comparaison de ces deux généalogies pour montrer la grâce divine à travers la généalogie de notre Seigneur Jésus-Christ. J'aimerais que vous ouvriez votre Bible et pendant que je résume l'histoire de Ruth, vous suivez les passages. Donc je vous invite à regarder Ruth chapitre 1. Je vais commencer à résumer ce qui se passe du verset 1 à 5 et après verset 16 à 17. Je ne vais pas le lire, mais j'aimerais bien que vous me suivez. Je vais faire le résumé de ce qui est dit dans ces versets. Donc, lors d'une famine, il y a un homme de Bethléem qui s'appelait Élimélec. Vous regardez Ruth chapitre 1, verset 1 à 2. Un homme donc de Bethléem et sa femme s'appelait Noémie. Ils avaient deux fils, Maclon et Kiljon. Et ils quittaient la Palestine pour s'installer au pays de Moab, dans le contexte d'une famine. Arrivés dans le pays de Moab, les deux garçons se mariaient. Mais vous savez, le malheur s'abattait sur la famille. D'abord, le père qui meurt, nous sommes au verset 3, verset 5 de Ruth chapitre 1, puis les deux fils aussi meurent, laissant ainsi trois veuves éplorées. Après plusieurs années, Noémie décide de revenir à Bethléem. Et Ruth, sa belle-fille, l'accompagne malgré tous les efforts déployés par la belle-mère pour la dissuader de ne pas venir avec elle, mais de rester dans le pays de Moab. Il y a cette phrase formidable que Ruth disait à sa belle-mère. Ruth chapitre 1, verset 16 à 17 maintenant. « Ne me presse pas de te laisser » de retourner loin de toi, où tu iras, j'irai. Où tu demeureras, je demeurerai. Ton peuple sera mon peuple, et ton Dieu sera mon Dieu. Verset 17, où tu mourras, je mourrai, et j'y serai enterré. Que l'Éternel me traite dans toute sa rigueur, si autre chose que la mort vienne à me séparer de toi. Donc, imaginons dans notre esprit, nous sommes de retour maintenant à Bethléem et c'était le moment de la moisson des orges. Et nous lisons dans Ruth chapitre 2, vous me suivez, versets 2 à 3. Ruth la Moabite dit à Noémie, sa belle-mère, « Laisse-moi, je te prie, aller glaner des épis. » dans le champ de celui aux yeux duquel je trouverai grâce. » Et Noémie lui répondit, « Va, ma fille. » Laisse-moi, je te prie, aller glaner des épis. J'aimerais bien que nous comprenions le contexte quand on parle de glanage. C'est intéressant de revenir dans Deutéronome 24, versets 19 à 22. Notez ces références pour que vous ayez le temps de revoir, replonger tout cela à la maison. Nous lisons dans Ruth chapitre 2, versets 2 à 3. Ruth la Moabite dit à Naomi, « Laisse-moi, je te prie, aller glaner des épis dans le champ de celui auquel, aux yeux duquel je trouverai grâce. » Elle répondit, « Va ma fille. » Elle alla glaner dans un champ derrière les moissonneurs. Il se trouva par bonheur que la parcelle de terre appartenait à Boaz, qui était de la famille d'Élimélec. Élimélec, c'est le mari de Naomi qui était décédé. Juste une parenthèse sur la loi de glanage. Dans Deutéronome 24, versets 19 à 22, on voit ici l'amour de Dieu pour les pauvres, pour les veuves, pour les orphelins, parce que Dieu avait pensé à eux et l'a inscrit dans la loi civile, au verset 19, « Quand tu moissonneras ton champ et que tu auras oublié une gerbe dans le champ, tu ne retourneras point la prendre. Elle sera pour l'étranger, pour l'orphelin, pour la veuve, afin que l'Éternel ton Dieu te bénisse dans tout le travail de tes mains. » Verset 20, « Quand tu secoueras tes oliviers, tu ne cueilleras point ensuite les fruits restés aux branches. Ils seront pour l'étranger, pour l'orphelin, pour la veuve. Et quand tu vendangeras ta vigne, tu ne cueilleras point ensuite les grappes qui y seront restées. Elles seront pour l'étranger, pour l'orphelin et pour la veuve. » Pourquoi cette loi? Tout simplement, c'est que Dieu exige qu'un propriétaire agricole avait l'obligation de laisser les pauvres glaner les épis qui n'ont pas été ramassés dans son champ lors de la première récolte. Et comme vous le constatez, ce principe s'applique aussi aux propriétaires d'un arbre fruitier, hein, d'une vigne, etc. Et pourquoi Dieu a demandé de faire cela? Vous regardez dans Deutéronome 24, verset 22. « Tu te souviendras que tu as été esclave dans le pays d'Égypte. C'est pourquoi je te donne ces commandements à mettre en pratique. » Je n'ai pas affiché, mais rajouté un verset sur ces lois-là aussi. Lévitique 23, verset 22. Et Lévitique 19, verset 9. « Les coins du champ semé, à peu près une dixième de partie, ne pouvant pas être moissonné. » Je lis Lévitique 19, 9. Hein. « Quand vous ferez la moisson dans votre pays, tu laisseras un coin de ton champ sans le moissonner. Tu ne ramasseras pas ce qui reste à glaner. » Et pourquoi? La réponse est dans Lévitique 23, verset 22. « Tu abandonneras cela aux pauvres et à l'étranger. Je suis l'Éternel, votre Dieu. » Ce qui me touche, et la raison pourquoi je vous mets ces textes de loi, tout simplement parce qu'on a l'impression que le Dieu de l'Ancien Testament est un Dieu sévère, sans pitié, sans amour. D'après ce texte, c'est faux. Ne serait-ce que ces passages nous démontrent le contraire. Le Dieu qui se révélait dans l'Ancien Testament est un Dieu qui est amour. Il pense aux droits des faibles, des orphelins, des veuves, je dirais à ceux qui sont laissés pour compte dans la société. Et ce qui est fort, pour les protéger, il l'a inscrit dans la loi civile de l'époque pour son peuple et ces faibles-là pour les protéger. Revenons à Ruth maintenant. Donc Ruth sort pour aller glaner dans la providence divine. Il se trouve qu'elle glane dans un champ qui appartenait à Boaz, un proche parent d'Élimélec. Et Dieu tissent les liens dans les petits détails de notre vie, cette rencontre inattendue avec une personne, cet échec, cette réussite, cet accident, ce cancer, toutes ces choses, Dieu tisse les liens. Et ce qui se confie en lui reconnaît la main providentielle de Dieu dans leur vie. Et c'est ce qui se passe ici, dans Ruth chapitre 2, verset 3. Il se trouva par hasard que la pièce de terre appartenait à Boaz, qui était la famille d'Élimélec. Et qui est Boaz? Est-ce que vous vous rappelez qui est Boaz? Son ascendance. Boaz était le fils de Rahab. Et qui était Rahab? La prostituée de Jéricho. Eh oui. L'histoire, hein? Incroyable comment Dieu dirige les choses, hein? D'un coup, Ruth comme par hasard, dit le texte, se trouvait là, il y a un certain homme, Boaz, et ce Boaz, c'était un descendant de Rahab, la prostituée. Et donc Boaz aperçoit Ruth et tombe amoureux d'elle. Et il la traite avec beaucoup de gentillesse et ordonne à ses moissonneurs de faire de même. Vous pouvez lire Ruth 2, versets 15 à 16. Et vous savez, Ruth ramène à la maison à la fin de la journée une vingtaine de kilos d'orge. Et elle raconte à sa belle-mère combien Boaz s'est montré aimable à son égard. Et qu'est-ce qu'attend la belle-mère? Qu'est-ce que vous en pensez? Elle va faire tout pour le projet de mariage pour sa belle-fille. Vous pouvez suivre tout ça, Ruth, chapitre 2, versets 19 à 23. Oui, mais il y a un souci. Boaz n'a pas pu demander un mariage plus tôt, tout simplement parce qu'il y a ce qu'on appelle un proche parent, et je veux travailler avec vous là-dessus, un proche parent qu'on appelle le Goël. Le Goël, c'est celui qui a le droit de rachat avant Boaz. Et on va y revenir tout à l'heure. Boaz n'a pas pu se marier tout de suite parce qu'un proche parent avant lui avait le droit de rachat. Et donc, il faut attendre la décision de ce proche parent pour savoir s'il veut accomplir son droit de rachat à l'égard de Ruth. Mais ce dernier disait non, je retire mon joker, je ne veux pas user mon droit de rachat envers Ruth. Vas-y toi, la porte est ouverte pour Boaz. Parce que en ce moment-là, pour dire que le proche parent renonce à son droit de rachat, il faut le matérialiser par quelque chose de symbolique. Il enlève ses chaussures, il va donner à Boaz, et ça c'est un axe de transaction à l'époque pour signifier que maintenant le droit de rachat que j'ai, vous voulez pas, maintenant officiellement il est transmis à Boaz en lui donnant la chaussure. Vous voyez? Et le mariage était fait. Qu'est-ce qui s'est passé après? À votre avis? Quelque temps plus tard, Dieu donna à Ruth et Boaz un garçon. Comment il s'appelle ce garçon? Comment il s'appelle? Obed. Heureusement qu'elle est là. Hein? Obed. Oui, Obed, donc devenu grand, devait engendrer un garçon du nom de... Isaïe. Isaïe, il est le père de qui? De David. Ainsi donc, Ruth, la femme moabite, fut l'arrière-grand-mère du roi David. Et qu'est-ce qui est formidable? Ruth va être inscrite dans la généalogie du Seigneur Jésus-Christ en Matthieu 1, verset 5, que nous allons voir tout à l'heure. Et je dirais quand même, c'est quelque chose d'extraordinaire, une démonstration de la grâce divine. Pourquoi Ruth et une Moabite puissent être inclus dans la généalogie de Jésus? Et pourtant, Ruth descendait de Moab. Et vous savez, qu'est-ce qui s'était passé? Les Moabites, hein, normalement, n'entreront point dans l'assemblée de l'Éternel, même à la dixième génération et à perpétuité. Nous lisons ça dans Deutéronome 23, verset 3. Je répète, l'Ammonite et le Moabite n'entreront point dans l'assemblée de l'Éternel, même à la dixième génération et à perpétuité. Et pourtant, Ruth, descendant de Moab, est devenue la première, je dirais, prosélyte, c'est-à-dire la première femme non-juive à se convertir à la religion juive, à se joindre au peuple d'Israël. Rappelez-vous tout à l'heure ce qu'il avait dit à sa belle-mère? Où tu iras? J'irai. Ton Dieu sera mon Dieu. Il s'est converti complètement à la religion juive. Et donc, par ces liens providentiels, Dieu a permis cette rencontre et l'a inscrit plus tard dans la généalogie de notre Seigneur Jésus-Christ. Oui, Ruth disait à Naomi, « Où tu iras, j'irai, où tu demeureras, je demeurerai, ton peuple sera mon peuple et ton Dieu sera mon Dieu. » Donc Ruth est ainsi la femme moabite qui fut l'arrière-grand-mère du roi David. Et par là, comme j'ai dit, incluse dans la généalogie du Seigneur Jésus-Christ, elle est devenue l'enceinte du Messie. Et pourtant, comme je viens de vous lire tout à l'heure, sa génération est exclue à perpétuité du culte communautaire d'Israël, donc ne pouvait jamais se joindre à l'adoration d'Israël. Et en cela, je vois une manifestation de la grâce de Dieu. J'aimerais maintenant regarder, ça c'est l'histoire formidable de Ruth avec sa belle-mère. Mais dans cette histoire, l'Esprit de Dieu veut nous enseigner quelque chose de plus profond et qui a une portée plus large que l'histoire de Ruth. Lisons ensemble dans Ruth chapitre 4, versets 3 à 5. Je reviens maintenant à la question tout à l'heure du droit de rachat. Le Goël, ou ce qu'on appelle le Rédempteur. Nous lisons Ruth 4, versets 3 à 5. Puis, il dit à celui qui avait le droit de rachat, « Naomi, revenue du pays de Moab, a vendu la pièce de terre qui appartenait à notre frère Élimélec. J'ai cru devoir t'en informer et te dire, acquière-la en présence des habitants, en présence des anciens de mon peuple. Si tu veux racheter, rachète, mais si tu ne veux pas, déclare-le-moi afin que je le sache. » Je mets juste dans le contexte, maintenant. Le proche parent, avant Boaz, il se voit les deux. Et donc, ce que nous lisons là, c'est la discussion entre Boaz et le proche parent qui a le droit avant Boaz. Et c'est ce que nous lisons. Donc, il dit, si tu veux racheter, rachète, mais si tu ne veux pas, déclare-le-moi afin que je le sache. Car il n'y a personne avant toi qui ait le droit de rachat, et je l'ai après toi. Il répondit, je l'achèterai. Il change d'avis tout de suite. Hein. Boaz dit, le jour où tu acquerras le champ de la main de Naomi, tu l'acquerras en même temps de Ruth la Moabite, femme du défunt, pour relever le nom du défunt dans son héritage. Ici, il y a deux lois que Dieu a inscrites, que doit faire le proche parent dans une circonstance, deux circonstances que je vais vous décrire. Donc il y a ce qu'on appelle le droit de rachat des propriétés. Vous le voyez dans le passage que nous venons de lire, versets 3 à 4. Hein. Maintenant, Naomi retourne à Bethléem. Elle est obligée de vendre la terre de son mari parce qu'elle a besoin de survivre. Donc, elle est devenue pauvre, sans terre. Or, la terre ancestrale là, devrait rester toujours dans la famille. Et comme la loi du rachat était fait très bien, dans le sens que Dieu ne veut jamais que la terre, surtout agricole, on y vit dans un pays agricole, parte dans les mains d'un étranger. Vous voyez? Et donc là, il y a le Rédempteur, le Goël. Ici, maintenant, c'est Boaz, parce que l'autre a dit non, je ne veux pas je ne veux pas exécuter mon droit de rachat. Je te le donne. Et donc, il a donné à Boaz. Donc, c'est ce que nous lisons maintenant. Donc, hein, il faut racheter cette terre que Naomi a vendue pour que cette terre revienne à l'ancêtre d'Elimelech. Donc, nous lisons dans Lévitique 25, verset 25, juste, si ton frère devient pauvre et vend une portion de sa propriété, celui qui a le droit de rachat, son plus proche parent, viendra et rachètera ce qu'a vendu son frère. Donc, c'est ce que nous voyons dans cette histoire. Boaz va utiliser son droit de rachat pour racheter la terre que Naomi avait vendue. Et ce que je vois encore formidable, quand vous étudiez tous ces textes de loi, vous savez qu'à l'époque, dans ces peuples-là, Dieu inscrit aussi ce qu'on appelle le jubilé. Celui qui a vendu sa terre pour survivre ou parce que il a des dettes à payer, donc il a perdu sa terre. La fête de jubilé, après 50 ans, la terre qui a été vendue revient à sa propriétaire. C'est magnifique. parce que Dieu voulait que tous usent des biens que Dieu a le droit et c'était le propriétaire. Oui. Il ne veut pas que toutes les richesses s'accumulent dans la main d'une personne. Et donc, si quelqu'un a vendu pour diverses raisons, au bout de 50 ans, il peut espérer revenir et retrouver sa terre. C'est la loi de la jubilée. Donc, cette loi a été donnée par Dieu pour empêcher les pauvres d'être dépossédés de leur terre ancestrale. Donc, Boaz, on comprend mieux l'histoire maintenant. Pourquoi le droit de rachat? C'est pour appliquer ce principe que Dieu veut que cette terre ancestrale reste dans la famille d'Élimélec. Donc je vois encore le Dieu qui se relevait dans l'Ancien Testament est un Dieu d'amour, qui pense aux droits des pauvres. Et il a fait inscrit dans la loi civile de l'époque pour les protéger matériellement même. Vous voyez? Mais il y a deuxième chose que vous voyez ici, dans le verset 5. Tu l'accueilleras en même temps de Ruth la Moabite, femme du défunt, pour relever le nom du défunt et de son héritage. Ça, c'est ce qu'on appelle la loi du Lévira. Lévira, le beau-frère. Ça veut dire quoi? Tout simplement, c'est que la loi ordonne à un frère de susciter une postérité au défunt. Ou ce qu'on appelle la loi du Lévira. Et ça, je vous conseille de retrouver dans Deutéronome 25, versets 5 à 10, que vous regardez à la maison. Pourquoi ça s'applique ici? Parce que tout simplement, si un homme marié mourait sans avoir d'enfant, c'est le cas ici, le proche parent, donc le goël, était obligé d'épouser la veuve afin de lui susciter une postérité. C'est ce qu'on appelle la loi du Lévira ou du beau-frère. Et tout enfant né de cette union était considéré comme un rejeton du frère décédé. Donc vous voyez, quand je lis ça, cette histoire palpitante, avec plein de rebondissements de Ruth et Naomi, illustre admirablement la mise en pratique de ces deux lois que nous venons d'évoquer dans la responsabilité du proche parent, le goël, qui est Boaz. Oui, en effet, devenue veuve Naomi, était obligé de vendre sa propriété près de Bethléem, hein, d'où le rachat de la propriété par Boaz, le goël. Mais Naomi voulait également que sa belle-fille Ruth, hein, qui n'avait pas d'enfant, se remarie. Et c'est ce qu'a fait Boaz grâce à la loi du Lévira. On comprend mieux pourquoi tous ces mots, droit de rachat, sont dans le texte. Donc, j'aimerais maintenant que vous regardiez avec moi l'histoire du plan rédempteur dans cette histoire palpitante. Le récit va dépeindre merveilleusement quatre traits qui doivent caractériser le rédempteur et cela va s'appliquer plus tard dans la personne de Christ, notre rédempteur. Donc, en revenant sur le droit de rachat, il y a quatre choses que doit caractériser le proche parent. D'abord, il faut la parenté. Je veux revenir. Qu'est-ce que je veux entendre par là? Les ressources, retenez bien, la disponibilité et la liberté. Je répète, les proches parents, pour qu'ils puissent exercer son droit de rachat, doivent vérifier ces quatre critères que nous allons voir tout de suite. La parenté, les ressources, la disponibilité et la liberté. D'abord, la parenté. Pourquoi la parenté? Parce que le rédempteur devait être un proche parent. Vous l'avez bien lu. Hein? Selon la loi, ce pouvait être quoi? Ça pouvait être un frère, ça pouvait être un oncle, ça pouvait être quelqu'un de la famille, mais pas en dehors. Hein? Et je vous demande de lire avec moi Lévitique 25, hein, versets 48 à 49. Le contexte ici, c'est tout simplement une personne qui devient pauvre, hein, et se vend à un étranger. Et donc, pour le droit de rachat, il aura droit. Et le verset nous dit, qui pourrait le racheter? Et le verset 28 nous dit, 48 nous dit, un de ses frères pourra le racheter, son oncle, le fils de son oncle, et l'un de ses proches parents pourra le racheter. Et s'il en a les ressources, il se débrouille tout seul comme un grand. Ça, c'est la loi. J'aimerais noter deux choses ici. D'abord, le passage se rapporte à quelqu'un qui est devenu pauvre et qui a tout perdu et s'est vendu comme esclave. C'est ce que nous lisons dans ce texte de Lévitique. Et donc, la rédemption était la délivrance de l'esclavage. Ça, c'est la première chose à retenir, parce qu'il y aura une parallèle en ce qui nous concerne vis-à-vis du péché plus tard. Donc, la rédemption était la délivrance de l'esclavage. Deuxième chose à noter ici, le rédempteur était un homme. Vous l'avez bien remarqué, que ce soit un frère, un oncle, le fils de l'oncle ou l'un de ses proches était un homme, proche de la famille. Et vous savez, l'application maintenant, pour nous, dans la Nouvelle Alliance, notre rédempteur a été aussi un homme, le Seigneur Jésus-Christ. Regardez Hébreux 2,14, qui parle que puisque les enfants participent au sang et à la chair, c'est un homme qui naît avec le sang qui coule, la chair. Il, ça veut dire le Seigneur, il y a également participé lui-même pour dire qu'il est un vrai homme. Vous voyez? Le proche parent doit être un homme et notre Seigneur Jésus-Christ, notre Rédempteur, il est un homme. Et il a participé lui-même à avoir le sang et la chair pour dire vraiment qu'il est un homme. Oui, Dieu s'est manifesté en Christ, fait homme. Il est devenu notre proche parent, un homme qui pouvait sauver un autre homme. Un homme comme nous, mais parfait, sans péché. D'où l'incarnation de Christ, ce que nous commémorons maintenant, était nécessaire pour nous sauver, pour nous libérer de l'esclavage du péché. Ça, c'est la parenté. Vous voyez l'application ? En notre Seigneur Jésus-Christ. Il faut aussi pour le proche parent la ressource. Les ressources, et regardons dans Ruth, verset 4 à 6, nous lisons que celui qui avait le droit de rachat, je ne puis pas le racheter pour moi, de peur que je ne ruine mon héritage. Ça, c'est le premier avant-boise, proche parent. Use-toi de mon droit de rachat, car je ne puis racheter. Donc ici, le rédempteur avant-boise n'a pas les ressources suffisantes pour recouvrer l'héritage. Et tandis que Boaz, vous voyez Boaz, oh mince, lui est un homme puissant et riche de la famille d'Élimélec et qui se nommait Boaz. Lui par contre, un proche parent, et il peut bien, non pas celui-là, mais il peut bien accomplir le rachat parce qu'il a les ressources suffisantes pour racheter. Donc la provision nécessaire à notre rachat devrait être fourni et Dieu a prévu le sang de son propre fils, n'est-ce pas? Pierre nous rappelle dans 1 Pierre 1, 18 à 20, vous savez que ce n'est pas par des choses périssables, par de l'argent ou de l'or que vous avez été rachetés. On parle bien du rédempteur, du rachat. Mais par le sang précieux de Christ. Vous voyez bien, un agneau sans défaut et sans tache. Un homme, un vrai, mais sans défaut, sans tache, sans péché. Et cela a été prévu avant la fondation du monde. Donc notre Seigneur, notre Rédempteur, la parenté est vérifiée. Les ressources, il en a. Et maintenant, la disponibilité. La disponibilité, pourquoi? Parce qu'il faut ensuite que le proche parent soit disponible pour agir en faveur de celui qu'il désire racheter. Le premier proche parent, non. Il n'était pas disponible pour ses propres raisons. Mais Boaz, lui, elle a été disponible. Nous lisons dans Ruth 3, 9 et 11, « Je suis Ruth, ta servante, et tends ton aile sur ta servante, car tu as droit de rachat. » C'est Ruth qui parle à Boaz. « Et je ferai pour toi tout ce que tu diras. » C'est Boaz qui parle à Ruth. « Je ferai pour toi tout ce que tu diras. » « Je ferai pour toi tout ce que tu diras. » Donc il est disponible. Il en est de même pour notre Seigneur Jésus-Christ. Il était disponible pour nous racheter. Comment nous le savons? Parce que dans Hébreux 10, versets 4 à 7, il y avait des leçons de change dans l'Ancien Testament pour s'approcher de Dieu. Comme il est saint, il ne tolère aucun péché, il faut passer par des sacrifices d'animaux. Mais les sacrifices d'animaux ne peuvent jamais ôter les péchés. Il fallait le faire pour les apprendre, hein, tout simplement, que plus tard, il y aura le seul sacrifice qui va ôter vraiment les péchés. Et c'est ce que nous voyons, la disponibilité du Seigneur. Regardez, les sangs des taureaux et des boucs n'ôtent pas les péchés. C'est pourquoi Christ, entrant dans le monde, dit, Christ dit à son Père, « Tu n'as voulu ni sacrifice ni offrande, mais tu m'as formé un corps. Tu n'as agréé ni holocauste ni sacrifice pour les péchés. Alors j'ai dit, c'est Christ qui parle, je viens. » Il est disponible. Je viens. Dans le rouleau du livre, il est question de moi pour faire, ô Dieu, ta volonté. Oui, Christ est disponible pour venir nous être notre rédempteur. Pour faire ta volonté. Et quelle est cette volonté de son Père? La volonté de son Père, c'est que le deuxième personne de la Trinité, le Fils de Dieu, s'offre en tant que sacrifice pour ôter une fois pour toutes le péché. Et c'est ce qu'il a fait il y a 2000 ans. Maintenant, le dernier critère pour le rédempteur, il faut la liberté. La liberté. Pourquoi? Parce que celui qui va racheter un autre homme se doit lui-même d'être libre. Quelqu'un qui a déjà des dettes, hein, ne peut pas être libre pour sortir l'autre personne de ses engrenages dans lesquels il se trouve. Ici donc, parce qu'un esclave ne pouvait pas racheter un esclave. Et c'est ce que nous lisons, hein, ici dans Ruth 4, versets 6 à 8. Celui qui avait le droit de rachat répondit, je ne puis pas racheter pour mon compte, ça c'est le premier rédempteur, de peur de détruire mon héritage, prends pour toi mon droit de rachat car je ne puis pas racheter. Et c'est ce que je vous ai raconté tout à l'heure. Autrefois en Israël, pour valider une affaire quelconque relative à un rachat ou un échange, l'un ôtait son soulier et le donnait à l'autre, et cela servait de témoignage en Israël. Celui qui avait le droit de rachat dit donc à Boaz, acquiert pour ton compte, et il ôta son soulier qu'il a donné à Boaz. Oui, maintenant Boaz est libre pour faire le rachat, et sa liberté, il l'a démontré en allant jusqu'au bout, en se mariant avec Ruth et en ayant un fils Obed avec lui. Oui, il y a une image aussi pour notre rédempteur. Oui, il devait être un homme, mais un homme qui n'a jamais connu le joug du péché. Il est dit dans Hébreux 4, 15, il a été tenté comme nous en toutes choses, sans commettre de péché en ce qui concerne notre Seigneur, notre Rédempteur. Il n'a pas connu le péché, 2 Corinthiens 5, 21. Il n'a pas commis le péché, 1 Pierre 2, 22. Il n'y a pas de péché en lui, 1 Jean 3, 5. Donc, ouf, les quatre critères du Rédempteur est accompli dans la personne de notre Rédempteur, le Seigneur Jésus-Christ. C'est pour cela que, gratuitement, nous sommes justifiés par le moyen de la rédemption qui est en Jésus-Christ. Et c'est pour cela que notre Seigneur a racheté pour Dieu, par son sang, des hommes de toute tribu, de toute langue, de tout peuple et de toute nation. Apocalypse 5, 9. Et bonne nouvelle, chers amis, chers frères et sœurs, nous faisons partie de ces peuples, ces tribus, de toute langue, de diverses nations, non pas à cause de nos mérites, mais à cause de celui qui est qualifié par Dieu pour accomplir notre rachat, Jésus-Christ. Juste avant de terminer, pour vous dire tout simplement, l'histoire de Ruth est palpitante, n'est-ce pas? Plein de rebondissements. Et c'est comme notre propre vie. On voyage, on se marie, on fait des enfants et on meurt. On moissonne, on travaille, on télétravaille, on mange, on dorme, on fait des tractations légales. Mais ce que je tiens à vous préciser, à travers cette histoire banale, c'est comme les nôtres. derrière ces événements anodins de la vie, on voit la main invisible de l'Éternel qui accomplit son plan à travers Ruth et Boaz. N'est-ce pas? Alors que les malheurs s'amoncelaient sur Noémie, vous imaginez, arrivé dans un autre pays, trois décès d'un coup l'un après l'autre. Et ce n'est pas n'importe qui son mari, c'est deux fils. Sa nuit se noircissait, je dirais, toujours davantage. Mais Dieu avait en vue sa bénédiction par l'intermédiaire de Ruth, la Moabite, une étrangère pourtant hors de l'alliance, comme je vous ai indiqué tout à l'heure. Et ça nous donne une belle application pour nous aujourd'hui. Nous sommes des hommes, des femmes, pas extraordinaires, mais ordinaires, comme Ruth. On fait de voyages, on fait de rencontres, on va ici et là. Et ce qui se passe, c'est que quelles que soient les choses que vous pouvez traverser dans votre vie aujourd'hui, que ce soit la détresse ou les petites choses anodines de la vie, sachez-le que rien n'échappe pour ceux, lui ou celle, qui fait confiance en Dieu. Rien n'échappe à la souveraineté de Dieu et à l'action de Dieu dans notre vie. Je vous encourage de soumettre votre vie à lui, à Dieu, de lui faire totale confiance et laissez-lui être Dieu. Ça veut dire qu'il vous laisse gouverner notre vie, votre vie. Parce qu'il est grand, comme dit le psalmiste. Seigneur, tu es grand, tu opères des prodiges, toi seul, tu es Dieu. Et s'il y a un message pour l'histoire de Ruth, c'est celle-là. Elle n'a pas pensé qu'il y aura des drames qui arriveront dans ce pays. Elle est partie pour la famille. Et combien ce drame, le Seigneur a détourné pour le bien de nous aujourd'hui. De nous aujourd'hui, parce que de là sort le Rédempteur. Quelle histoire formidable! Et je veux juste vous dire également que ce récit préfigure l'histoire de la rédemption, le rachat de l'humanité par Jésus-Christ. Comme Boaz, Jésus devint un proche parent en revêtant la forme d'un homme, comme le dit maintes fois le Nouveau Testament, juste deux passages, Galates 4:4. Mais lorsque les temps ont été accomplis, Dieu a envoyé son fils né d'une femme. Né d'une femme, né sous la loi, pour dire qu'il est vraiment homme. Jésus-Christ vint faire partie de la famille humaine, essentiellement afin de la racheter de la détresse due au péché. Et je dirais aussi, Jésus-Christ, comme Boaz, dans l'histoire, devait accepter de devenir le Rédempteur. Et Jésus-Christ a accepté de devenir notre Rédempteur. Comme nous venons de lire tout à l'heure, Hébreux 10, 5 à 7. Entrant dans le monde, tu n'as voulu ni sacrifice ni offrande, mais tu m'as formé un corps. Et j'ai dit, voici, je viens dans le rouleau du livre, il est question de moi pour faire au Dieu ta volonté. Je veux terminer. Maintenant, comment peut-on voir la grâce de Dieu à travers cette généalogie? Vous savez, si vous êtes comme moi, quand je lis la Bible, généalogie, cauchemar. Qu'est-ce que c'est que ces noms? Rien à faire, je ne comprends pas. Et on a tendance tout le temps de mettre ça de côté, les listes des généalogies. Mais je voudrais juste, par cet exemple, vous montrer combien elle est là, parce qu'inspirée par l'Esprit de Dieu, et pour nous enseigner quelque chose ici concernant notre rédemption. Je vous invite à lire chez vous. Où est-ce qu'on trouve la généalogie la plus longue dans l'Ancien Testament? Dans quel livre? Dans l'Ancien Testament. Très longue. 9 chapitres que des généalogies. 1 Chronique. Et je vous invite à lire 1 Chronique chapitre 1 jusqu'à chapitre 9. Ouh là là, j'entends derrière. Hein? La généalogie. Et je vous cite Matthieu 1, versets 1 à 17. La généalogie de Jésus-Christ. Combien de noms est dans cette généalogie? 50 noms. Et ça couvre quelle période de l'histoire biblique? 2000 ans d'histoire. Vous imaginez? Et ici, nous sommes en Ruth, chapitre 4, versets 18 à 22. Une généalogie, je dirais, compactée, rétrécie, mais qui couvre à peu près 9 siècles, 10 générations.
Vous imaginez, 9 siècles, 10 générations, de Pérès à David, hein,
10 générations, dont les 5 premières, donc de Pérès à Nachon, couvrent une période qui va de l'époque de Abraham jusqu'à l'Exode. Je répète, dans Ruth, regardez, Ruth chapitre 4 qu'on a vu tout à l'heure, 18 à 22, les 5 premières de Pérès à Nachon couvre une période qui va de l'époque des patriarches, Abraham, hein, Isaac et Jacob, jusqu'à l'Exode. Et de Salmon à David, dans cette généalogie, couvre la période de, à partir de Josué et des juges, jusqu'au début de la royauté. Saül, n'est-ce pas? Et le tableau suivant, je l'ai mis pour que vous voyez bien les parallèles. On a l'impression que Matthieu connaît très bien l'Ancien Testament, et comme tout homme pieux, et donc il a puisé, je dirais, sa généalogie, quand il le compose dans Matthieu, il s'est appuyé sur le livre de Ruth. Je vous ai fait la parallèle, mais il y a quelque chose qui saute aux yeux quand même. Judas engendra Pharez ou Pérès. Donc, Pérès engendra Hitzron. J'aimerais que vous ouvrez votre Bible et vous regardez ce que je mets là. Donc, Pérès, on le voit ici dans 4:18 dans Ruth et 1:3 dans Matthieu. Mais ce que je trouve, Matthieu, inspiré par le Saint-Esprit, va dire « Mais d'où venait Pérès ? C'est de Tamar. » Il souligne la femme qui engendrait. Regardez, ici dans Ruth 4:20, Nachon engendra Salmon. C'est pas Salomon, hein, Salmon. Et là, 1:5, Matthieu, Salmon engendra Boaz de Rahab. On vient de dire qui est Rahab, n'est-ce pas? Et ici, Boaz engendra Obed de Ruth, la Moabite, exclue du culte d'Israël en perpétuité. Et regardez, 4:21, Ruth engendra Boaz. Nous voyons bien Boaz, mais on souligne toujours la maman. Ici, le roi David engendra Salomon de la femme d'Uri. Vous vous rappelez de cette histoire? Et ici, Isaïe engendra David. Donc, on voit très bien que la généalogie-là a été reprise en partie ici par Matthieu. Et sûrement, pour les compléter, ces 50 noms, hein, il a dû récolter des informations par ailleurs. Mais qu'est-ce que cela nous enseigne? D'abord, une question dont il faut se poser, pourquoi en Ruth on commence par Pérès? Tandis qu'en Matthieu, on va très loin. Tout début. La question dont on se posait, mais pourquoi Ruth, ici dans Ruth, la généalogie commence par Pérès? Et encore revenir dans l'histoire, mais qui est Pérès? Lisez Ruth chapitre 4, verset 12. Puisse la postérité que l'Éternel te donnera par cette jeune femme rendra ta maison semblable à la maison de Pérès, qui fut enfanta à Juda par Tamar. Est-ce que vous connaissez l'histoire de Juda et de Tamar? Eh oui, l'inceste. Donc le fait que la généalogie commence par Pérès n'est pas innocent ni anodin. Pérès évoque l'histoire de Tamar et Pérès n'est autre que le fils de Juda et de Tamar. C'est ce que, comme je vous ai dit en Ruth 4:12. Hein. C'est-à-dire du beau-père de sa belle-fille. Et j'aimerais que vous reveniez à la maison, regardez l'histoire. Pas glorieux. Hein. Dans Genèse 38, versets 24 à 26, une histoire pas glorieuse du tout de ce qui était arrivé avec Juda, hein, et Tamar. Et donc, le fruit de sa naissance de Pérès, c'est le fruit d'un inceste. Vous voyez? Pérès, sa vie a un sens dans la généalogie de Ruth, mais hormis la génération, la généalogie, il est insignifiant. Un homme qui n'est pas glorieux, dont l'ascendance n'est pas glorieuse du tout. Comme nous venons de le mentionner. Regardez, Boaz aussi, un lointain ancêtre, hein, qui a commis un inceste aussi, Boaz. Incroyable, hein? Il en est de même de Ruth, la Moabite, hein, qui a engendré Obed de Boaz. Hein?
Vous savez, donc, Ruth a un ancêtre issu d'une liaison incestueuse, puisque Moab est le fils de qui? Moab.
La fille de...
C'est le fils de Lot, hein?
Oui, de Lot.
Avec sa fille aînée. Quelle drôle d'histoire. Oui, Genèse 19, versets 36 à 37. Il faut regarder tout ça. Vous voyez, tout ça fait partie de l'ancêtre de Jésus. Des histoires pas faciles à vivre. Hein? Cache sombre dans la vie. Et pourtant, si vous lisez l'évangile de Matthieu, qui est adressé aux Juifs, nous voyons que notre Seigneur n'a pas honte de s'inscrire dans une généalogie, il n'y a que des gens de, pas que des gens de bonne vie. Et le Seigneur s'est inscrit. Et dans la culture rabbinique et juive, ça ne se fait pas d'inscrire le nom d'une femme dans une généalogie. Et pourtant, Matthieu se les perd, inspiré par l'Esprit de Dieu, pour nous enseigner ces femmes avec des passés assez lourds à porter. Oui, le Seigneur n'a pas honte de s'inscrire dans une généalogie où il n'y a pas que des gens de bonne vie. Je dirais, si j'étais à la place de Matthieu, je mets une gomme, un blanco. Je ne veux pas mettre les noms de ces femmes-là parce que ça tâche, n'est-ce pas, à la gloire de notre Messie. Matthieu ne l'a pas fait. L'a laissé. Et au su de tous, parce qu'ils avaient l'Ancien Testament, ils le connaissaient et ils les avaient, et Matthieu les a inscrits ainsi. Oui, Jésus prend rang humblement dans l'histoire d'hommes comme Pérez, de femmes comme Tamar, Rahab, Bathsheba, sans refuser leur page sombre. Et je dirais, c'est la manifestation de la grâce de Dieu. Peut-être vous dites, oui, c'est une histoire. Eux, ça, mais je ne suis pas comme ça. Mais combien la grâce de Dieu ne rejette pas des personnes comme cela? Jésus-Christ lui-même, vous vous rappelez la femme samaritaine? N'a pas refusé. L'a rencontré par les liens providentiels dans un puits à côté d'un puits pour lui parler de l'évangile, la bonne nouvelle. Magnifique notre Rédempteur. Hein? Oui, il y a un espoir, il y a une espérance, il y a une joie. Aujourd'hui, le jour de Noël, chers frères et sœurs, Jésus est venu aussi pour les femmes, non seulement les hommes. Et il était au contact des gens de mauvaise vie et même des femmes de mauvaise vie. Rappelez-vous de ces histoires rancambolesques où les religieux voulaient piéger Jésus et amener une femme de mauvaise vie. Il dit, qu'est-ce que tu vas en faire? Et vous savez l'histoire. Oui, sur cette terre, notre Seigneur a fréquenté toutes sortes de personnes sans les mépriser. Et vous savez, durant son ministère, notre Seigneur était accompagné par beaucoup de femmes de toutes les hiérarchies sociales. Luc chapitre 8, versets 1 à 3. Non seulement Jésus est venu pour les femmes, mais il est venu aussi pour les païens, c'est-à-dire les non-juifs. Comme il a dit dans Jean 16, il est venu aussi pour d'autres brebis en dehors d'Israël. Et oui, il est venu aussi, et la preuve c'est que même Ruth, une femme moabite, une non-juive, elle est incluse dans la généalogie de notre Seigneur. Pour ainsi dire que nous aussi, non-juifs, Dieu a pensé à nous. Et l'apôtre Paul le développe dans Galates, hein, ces choses-là. Jésus est aussi venu pour les pécheurs et les pécheurs, non pour les justes, comme il a dit dans Matthieu 9, 13. Il est venu pour celui ou celles qui sont tombés avec des passifs lourds ou des vies tumultueuses, mais qui le reconnaissent comme sauveur. Le Seigneur vous aime, il vous invite à rentrer en vous-même pour reconnaître votre état de péché et vous repentir et placer votre foi en lui. Ça, c'est la meilleure chose qui puisse arriver dans une vie. Et je sais, le plus grand nombre d'ici ont expérimenté cela. Et c'est bien de remémorer de cette histoire, de cette généalogie, pour nous montrer combien notre Dieu est un Dieu de miséricorde. Un Dieu qui ne rejette pas. Un Dieu qui accepte tel que nous sommes. Venez à lui.
Oui, reconnaître votre état de péché, se repentir et placer votre confiance en lui, c'est le seul moyen pour en être racheté et faire partie de la famille de Dieu. Donc venons à lui, venez à lui tel que vous êtes, et il est votre rédempteur et votre sauveur. Amen.